Ce deuxième épisode vous invite à rencontrer Samantha de la Fédération des Murs à Pêche.
Bonne écoute.
Donc, moi je m'appelle Samantha et je travaille actuellement comme coordinatrice pour la Fédération des Murs à Pêche. Et je suis arrivée vraiment par hasard au Murs à Pêche, je n'avais jamais mis les pieds à Montreuil avant. Et j'étais en fin d'études après une année sabbatique et je cherchais du boulot. Et j'ai une amie qui m'a dit « Ah, j'ai vu sur Facebook qu'ils cherchent une personne en service civique pour le festival des Murs à Pêche. Ça a l'air cool ce festival, je t'envoie le lien. » Et j'ai regardé un peu. De base, pêche, je pensais à la pêche aux poissons et pas aux fruits, pour dire que j'avais vraiment aucune idée du territoire et de ce que représentait le festival. J'avais fait mes études à Paris 8, donc j'avais eu un an en région parisienne, mais plus à Saint-Denis qu'à Montreuil. Et donc du coup je regarde et en effet le festival et le projet Murs à Pêche, de ce que j'en comprends en ligne, ça a l'air super. Donc je fais une lettre de motif mais sans vraiment y croire parce que je me dis bon, j'ai pas du tout un profil culture, ils veulent quelqu'un sur un festival, moi j'ai un master en sciences de l'éducation, je sais pas s'ils vont me prendre. Donc j'étais très détendue sur cette approche et puis on m'appelle pour un entretien. Je fais l'entretien, il y a un super lien avec Hugo et Mathieu, donc les deux personnes qui travaillent sur le festival. Et je me dis, ah bah, c'est super, je sais pas si je serai prise, mais j'ai bien envie de les revoir. C'est cool, Montreuil et les Murs à Pêche. Et puis, quelques jours après, Hugo m'appelle en me disant, bah, t'es pris, on fait une réunion festival demain, viens avec ton ordi, tu prendras le compte-rendu. Et puis, c'était parti.
Ouais.
Et c'est comme ça que je suis arrivée aux Murs à Pêche. J'avais pas d'appart à l'époque, donc j'ai cherché un logement à Montreuil. Et je me suis installée à Montreuil, près des Murs à Pêche, et j'y suis depuis.
Incroyable.
Enfin, j'ai changé d'appart entre-temps, mais je reste...
Et donc, tu étais en sciences de l'éducation?
Ouais, c'est ça.
Et tu rêvais de faire quoi comme métier?
J'avais pas de rêve de métier, du tout.
Mais t'as fait sciences de l'éduc, pourquoi alors?
Parce que j'ai fait classe prépa, Hippocane Cagne, et que c'est une expérience assez traumatique, et que ça m'a rendu très critique sur qu'est-ce qu'un système éducatif peut produire, ou peut produire comme dégâts sur des jeunes étudiantes. Je dis au féminin parce que classe prépa... c'est plutôt quasiment que des femmes. Donc voilà. Et en fait, ça m'interrogeait vachement de me dire comment c'est possible que des personnes qui arrivent du lycée, qui en général sont brillants, parce que pour entrer en classe prépa, c'est des personnes brillantes, sortent complètement en purée. J'étais pas la seule. Et vraiment, je me dis, mais comment ça se fait qu'un système qui doit transmettre des savoirs détruit des égos, des confiances et j'ai voulu étudier l'éducation pour ça. Et après, j'avais pas l'intention moi-même d'enseigner. Et le master que j'ai fait, c'est sciences de l'éducation, éducation tout au long de la vie. Et c'est tous les espaces d'apprentissage et d'expérience et de transmission de savoir hors académique qu'on a étudié beaucoup. Et donc, en fait, je me disais que j'allais être sur des boulots avec une dimension critique sur la pédagogie d'une façon ou l'autre. Mais je savais pas quoi exactement. Donc, j'étais très ouverte et c'est comme ça que je suis arrivée au Murs à Pêche. Sur le moment, ils cherchaient quelqu'un sur le festival pour aider notamment à la coordination de l'équipe bénévole. Entre autres, c'est pas mal ça que j'ai fait sur mon service civique. Et moi, sur un peu la lettre de motif, j'avais pas mis en avant tant que ça l'éducation, parce que je me disais que c'était pas le critère qui allait m'aider à être prise, mais plutôt les capacités organisationnelles de quelqu'un qui a fait un bac plus 5, et tout ce que j'ai pu faire hors études, des voyages, etc., autant financer mes voyages, des choses comme ça, pour le côté débrouille. Et on m'a dit que c'était un des critères qui avait aidé... Le côté, elle se débrouille, donc elle doit être un peu réveillée pour faire des choses sur l'événement. Quoi. Puis après le festival, ils ont proposé que j'aide à créer un poste salarié à la Fédé que je pourrais occuper. Donc j'imagine qu'ils étaient plutôt contents. Donc ça faisait longtemps que la Fédération voulait salarier une personne sans en avoir les moyens. Et le festival 2019 avait vraiment été un succès aussi en termes de finances. Et donc ça a permis de se dire, vas-y, on crée un poste, j'ai réussi à avoir une aide avec Pôle emploi. Sinon, je ne sais pas si le poste aurait été créé dès 2019, donc c'est un peu plusieurs choses en même temps. Et c'était un peu un pari risqué, c'était investir toutes les économies de la fédération pour créer ce poste en disant que ça allait le dynamiser et ça a marché.
Et le pérenniser après en cherchant un truc...
C'est ça, en cherchant d'autres fonds.
C'est ça.
Et en ayant aussi des subventions publiques, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est vrai que maintenant, c'est une grosse partie de mon travail, des fois trop grosse à mon goût, mais bon. C'est de trouver des financements pour la fédération pour permettre d'assurer une dynamique salariale tout en restant quand même indépendant puisque c'est une fédération militante. faire un projet de radio sur les murs à pêche et on avait, enfin, quand t'es venu, t'avais pas du tout d'idée préconçue sur qu'est-ce qu'il fallait travailler. Tu me posais pas mal de questions où j'essayais, moi, en fait, d'expliciter c'est quoi la fédération, c'est quoi les murs à pêche, qui sont les assos, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment de fil en aiguille quand on parlait des différentes réalités de cet espace, qui est venue un peu la réalité que les murs à pêche sont entourés de quartiers prioritaires, de personnes qui habitent dans des tours, dans des barres d'immeubles, et que, de ce qu'on constate, c'est pas ces personnes-là qui viennent le plus aux murs à pêche, c'est pas qu'elles viennent pas du tout, mais que, globalement, il y a quand même une fracture ou une distance, ou peut-être des incompréhensions. En tout cas, c'est quelque chose que je questionnais en essayant de te raconter un peu tout ce qu'on fait, et je parlais d'actions qu'on mène pour essayer justement d'aller vers ces personnes qui sont proche des murs à pêche, mais avec qui on a peu de liens, ou en tout cas avec qui certaines assos ont des liens, mais d'autres beaucoup moins. Et c'est de là qu'est venue l'idée de travailler cette question à travers le projet Radio. Le 77, c'est un espace, bon, 77 rue Pierre de Montreuil, ouais, qui s'appelle maintenant Jardin du Partage, qui a été l'objet qui a été lauréat au budget participatif de l'édition précédente. Mmh. Donc du coup, la ville de Montreuil a investi pas mal d'argent pour aménager cette parcelle, il y a une petite scène, etc. Et la ville de Montreuil ouvre ce lieu que certains jours de la semaine, mercredi, samedi, dimanche, si je ne me trompe pas, un peu comme les parcs publics de la ville, mais sauf que c'est pas tous les jours, c'est que certains jours. Mmh. C'est un cas un peu particulier. Et ça, moi-même, je ne sais pas pourquoi c'est ces jours-là et pas tous les jours. Et en parallèle, il y avait l'idée que le centre social Espace 40 et l'accès à cette parcelle pour y faire des projets, soit juste être en plein air pour des activités, soit faire du jardinage. Donc moi, c'est ce que je sais du projet initial, mais ce que j'ai constaté, c'est que ce centre social est complètement dépassé par un manque d'effectifs et des difficultés à faire ces actions de centre social, et que gérer en plus un jardin qui est pas loin mais qui n'est plus pas sur le lieu, de l'extérieur, même si moi je suis pas dans la gestion interne, ça paraissait compliqué. Et donc du coup, finalement, cette parcelle, elle n'avait pas été tant que ça investie par le centre social, faute de moyens à mon avis, quoi. La partie qui est plus ville, où il y a le centre social, et plus loin, plus vers le fond de la parcelle, il y a l'association des tomates vertes, et encore plus au fond, il y a le rucher école. Et maintenant, je sais que le conseil de quartier du Bel Air, qui s'est plus récemment reformé, a présenté un projet au budget participatif pour essayer d'investir cette parcelle, je pense en constatant qu'il y avait peu de choses. Oui, c'est vrai qu'on est parti sur l'idée d'une fracture, parce qu'il y a un côté un peu caricatural là-dedans, mais en fait, c'est pas qu'une fracture, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a à la fois... Il y a des liens, il y a des liens plus ou moins informels, et il y a des absences de liens à d'autres endroits aussi. Et moi, si ça m'intéresse, c'est parce que je me dis que, en tant que fédération, on cherche à avoir une vision globale du lieu, et moi, en travaillant pour la Fédération des murs à pêche, je suis amenée à essayer de penser le site dans sa globalité, même si c'est pas toujours évident. Et pour moi, c'est impossible de penser les jardins des murs à pêche sans penser toutes les personnes qui vivent proches. Ouais. Et la fédération, c'est une histoire de défendre les murs à pêche. Et donc du coup, moi, dans mes différentes missions, il y a un peu ça qui est toujours présent. Et pour moi, c'est évident dans ma conception des choses qu'on peut pas défendre le lieu et essayer de penser l'avenir des murs à pêche en se coupant des personnes qui sont vraiment proches ou dedans, parce que comme tu le dis très bien, il y a des personnes qui vivent dedans. Et pour moi, quelque part, ça n'a pas de sens de dire défendre les murs à pêche, mais sans parler des habitants des murs à pêche, en fait. Et donc, du coup, c'est ça qui m'intéressait. Et aussi, là, on en revient peut-être justement à ta question de base sur mon parcours en éducation tout au long de la vie à la base. Il y avait quand même pas mal aussi le côté les expériences qu'on vit, c'est depuis un point de vue et depuis une identité qui va être culturelle, sociale, linguistique, liée à l'âge, etc. Et qu'en fait, bah oui, concrètement, les identités des personnes qui ont fait les associations des murs à pêche sont différentes de celles qui habitent dans les bars d'immeubles à côté. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique aux murs à pêche, c'est dans toutes les villes, dans tous les lieux, il y a des différences. Et moi, je trouve ça intéressant de travailler ces différences et de se dire que que soit a priori les parcours de vie qu'on a eu, être dans un espace de nature, en général, ça fait du bien. Et je trouve que les murs à pêche, ce serait super s'ils pouvaient faire du bien à davantage de monde. Et ça, c'est quelque chose qui s'est aussi marqué pendant le confinement, où je trouvais ça terrible d'avoir des jardins vides pendant des mois, parce que c'était interdit d'y aller. Et à un moment, il y a eu cette règle sur selon le nombre de mètres carrés sur un jardin, il peut y avoir un nombre de personnes limitées. Je trouvais ça complètement scandaleux comme conception des choses. Et c'est ça qui m'a frappée. Je me dis, finalement, il y a des personnes qui sont adhérentes d'associations des murs à pêche, qui habitent assez loin, mais qui, en tant qu'adhérents avec ces trucs des jardins partagés, peuvent venir. Il y a des personnes qui sont en face, avec toutes ces règles du 1 km de déplacement, blablabla, et qui viennent pas. Et c'est là, ça m'a frappé un peu. Là, c'était un manque de lien. Il y en a d'autres à d'autres moments. Mais là, pour moi, je me suis dit, c'est trop dommage, rencontrons-nous. Et après, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Plus rien. Plus rien.
Où on en est, j'ai l'impression qu'on va dans le bon sens vers cette rencontre, mais que c'est vraiment quelque chose sur du long terme. C'est pas en un an que d'un seul coup des liens peuvent se créer. Et c'est quelque chose, je pense, qui sera toujours à travailler. Parce que spontanément, on va vers les personnes avec qui c'est simple et avec qui on se comprend vite, avec qui on se ressemble. Et donc, quand on veut travailler avec d'autres personnes, forcément, ça peut demander plus d'énergie, plus d'efforts. Et donc, du coup, je pense que c'est sur le temps long que ça s'inscrit. Mais les choses vont dans le bon sens vers cette rencontre. Et j'entends de plus en plus aussi dans des personnes qui sont au mur à pêche cette question-là de, bah oui, en fait, comment est-ce qu'on fait pour aller à la rencontre des personnes en face. Et ça, je trouve ça génial. Il y a quand même des acteurs qui, des murs à pêche qui, eux, travaillent ça depuis longtemps. Il y a l'association Lézard dans les murs qui, depuis des années, fait ce lien-là à travers l'enfance jeunesse et puis après la solidarité alimentaire. Donc, du coup, en fait, il y a quand même des liens. Il y a d'autres associations qui, à travers un projet avec une école, avec une structure sociale ou un centre social ou de loisirs, en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, des liens, on avait déjà plein. Et qu'il fallait un peu les voir en dessous des actions fortes qui ne parlent pas de ce lien. Mais en fait, le lien, il existe plus que ce que je pensais au début. Et donc, l'idée, c'est un peu de le renforcer, peut-être de visibiliser et de mettre en valeur aussi ce qui existe déjà comme tissage de relations. Et puis, d'en développer davantage. Parce que pour moi, les murs à pêche, on dit beaucoup que c'est un espace d'expérimentation, de liberté. Et on travaille sur cette question de commun, d'un espace appartient aux personnes qui en font l'usage, qui y vivent. Et c'est politique, bien sûr, et puis c'est aussi une question de rapport à la société, de rapport aux terres, aux territoires. Et on a écrit une charte, par exemple, d'usage commun de la prairie des murs à pêche, où on donne une grande place aux usagers de la prairie. Et un usager, c'est pas quelqu'un qui va être membre d'une asso ou propriétaire, c'est une personne qui fait des choses sur la prairie. Que ce soit faire un four à pain, venir pique-niquer, passer par là pour faire de la sculpture sur bois, il y a un sculpteur qui est venu. Enfin, il y a plein de façons d'être présent sur un lieu. Et c'est en ce sens-là que, pour moi, en fait, il y a besoin de réfléchir de façon globale à qui sont les usagers des murs à pêche. Moi, justement, ça doit commencer par une rencontre, parce que si on veut comprendre quels sont les besoins et envies des gens, il faut bien aller leur poser la question, en fait. Sinon, on ne peut pas inventer. Et ça n'a pas de sens de dire « Ah, moi, je pense que tu as besoin de ça, donc je vais te proposer ça. » En fait, ça se trouve, la personne, elle s'en fout. Et donc, du coup, c'est pour ça que, pour moi, il y a des besoins de se rencontrer, de se parler. Et donc, on a fait les rencontres des usagers de la prairie. On essaie vraiment d'inviter toutes les personnes qui habitent proches à venir... nous parler. C'est vraiment des espaces qu'on essaye d'ouvrir. Et ça se fait, mais au compte-gouttes. Mais il y a quand même un voisin qui a un garage à côté de la prairie, qui une fois est venu. Donc c'était super intéressant. Il y a une fois, par Louana des Voix du Château, deux jeunes du quartier qui sont venus, avec qui on a pu un petit peu discuter. Et donc en fait, là pour l'instant, c'est minime. Mais je pense que justement sur le temps long, ça peut valoir le coup de continuer pour avoir des espaces où vraiment les personnes expriment ce qu'elles, elles pensent intéressant, ce qu'elles, elles ont envie. La Facto, ils sont arrivés il y a quelques années, en 2018, je crois, quelque chose comme ça. Et ils ont un projet, en fait, qui est transitoire, avec deux conteneurs, un bricolage, un cuisine. Et l'idée, en fait, c'est un peu, grâce à ces équipements, d'animer et d'ouvrir des espaces en friche. Enfin, c'est ça le projet initial. Donc là, ils ont mis leurs conteneurs sur la prairie des murs à pêche parce que c'est souvent plus facile de venir faire des choses dans un espace quand t'as soit de quoi bricoler, soit de quoi te faire à manger pour la cuisine. Donc il y a l'idée, en fait, que grâce à cet équipement, un espace va devenir plus vivant, il va se passer plus de choses. Et donc, en fait, l'idée de la facto, c'est d'être là un temps pour faire un peu cette déclencher des animations et après de s'en aller. Donc à terme, ils n'ont pas vocation à rester dans les murs à pêche, mais l'idée, c'est plutôt que la fédération, en fait, reprenne le flambeau. Et est-ce que les conneurs vont rester, c'est encore en discussion. Donc ça, je peux pas dire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la facto s'en va petit à petit et que la fédé va reprendre cet aspect d'ouverture. De la prairie avec l'équipement que la facto a proposé. Je serais contente quand on fait une ouverture de la prairie, les personnes que je vois sont en partie des voisins qui habitent la tour en face et qui a vu sur la prairie, par exemple. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très peu le cas. Ça arrive parfois, mais c'est rare en proportion. On va pas être caricatural, dire que c'est jamais le cas, mais en proportion, c'est peu le cas. Et je serais contente quand dans les associations membres de la fédération et donc dans les personnes qui viennent aux réunions, il y a aussi des personnes qui habitent dans les immeubles en face et que je pense qu'il y aura d'autres visions d'avenir sur les murs à pêche que moi-même je n'ai pas et qui j'espère peuvent fleurir sur des discussions avec des points de vue situés différents. La rencontre avec la tribu, en effet, c'est génial, avec leur repas de rentrée qui met en lien plein de monde, c'est trop bien. Et de là est né un premier projet où les petits débrouillards viennent au mur à pêche. Et en fait, en discutant avec des personnes de la tribu, on s'est dit ça peut être bien que les petits débrouillards viennent sur l'heure d'ouverture de la bibliothèque pour être identifiés par les familles. Et on a fait un truc où sur 4 samedis d'affilée, c'était un samedi sur deux dans le jardin de la bibliothèque et un samedi sur deux dans les murs à pêche près de la maison des murs à pêche pour qu'en fait les familles soient déjà sur l'endroit où elles vont, la bibliothèque, elles y vont de toute façon et tiens, il y a un atelier aujourd'hui, c'est les petits débrouillards, ça leur plaît parce qu'en général les ateliers petits débs c'est un succès et donc elles disent ça m'intéresse d'en faire un autre ou les enfants ont envie d'en refaire un et donc viennent le samedi suivant dans les murs à pêche et ça on l'a fait déjà un peu pour un test en octobre-novembre, c'est tout récent et ça a bien marché. Plus pendant période scolaire que vacances, parce que vacances, une partie des personnes n'étaient pas là, donc il y avait moins d'enfants, mais c'est plus une histoire de calendrier, je pense. Et ça, on s'est vraiment dit, il faudrait refaire ça et faire peut-être d'autres projets, s'il n'y a pas que les petits débrouillards, c'était une porte d'entrée. Et donc, j'ai croisé une personne de la tribu il n'y a pas longtemps, et on s'est dit, on va faire une réunion. Elle m'a dit, souvent, on se voit les vendredis, je crois, je ne sais plus. Je lui ai dit, dis-moi quel vendredi je peux venir. Donc, ça va se faire bientôt. Et je pense, en effet, que c'est un super point de départ pour créer des choses. Et par exemple, là, si on parle des besoins, il y en a un très spécifique où Cécile de la tribu me disait « Est-ce que t'as pas une carte des murs à pêche pour comme ça, j'indique aux familles où est l'atelier ?» Et on a regardé le plan qui avait été fait pour le festival. Je lui ai dit « Justement, je veux bien ton retour, on essaye d'améliorer ce plan parce qu'il n'est pas toujours hyper clair, les gens des fois se retrouvent pas bien. » Elle m'a dit « Non, mais mets des points de repère, t'as même pas les arrêts de bus et la piscine. Comment tu veux que les gens s'y retrouvent ?» Et c'était évident, quoi. Elle a dit, je me dis, nous, on n'est que nos jardins, mais évidemment, les gens, ils vont pas se repérer entre d'un jardin à l'autre, mais par contre, l'arrêt de bus, ils savent où il est parce qu'ils prennent le bus tous les jours.
Et la piscine, par exemple.
Et ça paraît complètement évident, et je me dis, on est quand même avec des œillères dans nos trucs, on n'a même pas pensé à mettre la piscine sur le plan. Et là, peut-être pour compléter. On travaille avec différentes personnes qui ont l'expérience de travailler sur les communs et on a le projet d'ici le prochain festival des murs à pêche, donc au printemps prochain, d'essayer de faire un grand banquet qu'on doit construire et qui serait justement en lien avec pas mal d'habitants du Bel Air parce que y en a des assos qui font à manger par exemple, ce serait une porte d'entrée. Les lézards dans les murs font de la distribution alimentaire, donc on sait que l'alimentation c'est une question primordiale. Et donc du coup, en fait, vraiment, il y a l'idée d'aller à la rencontre et de se parler aussi dans un contexte autre que nos codes à nous. Par exemple, le Festival des Murs à Pêche, qui est un très bel événement, c'est un événement qui est dans pas mal de codes sur l'art de rue, sur une forme de programmation artistique qui n'intéresse pas forcément les personnes qui habitent en face, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on change notre programmation, mais ça pose des questions aussi sur, bah oui, peut-être qu'ils viennent pas parce qu'ils ont peur ou quoi, juste parce que ça leur plaît pas, en fait. Comment travailler sur ça, et je pense que c'est une expérimentation un peu permanente sur, bah, comment est-ce que on se rencontre, en fait. Pour c'est moi, ça. C'est ça. Et c'est ce que tu dis là sur attention de pas juste dire venez chez nous, parce que ça fait un peu venez dans nos codes à nous. Comment faire pour que ce soit une rencontre d'égal à égal ou de personne à personne?
Ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. M'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
À la réalisation et au montage,
Vladimir Cruels et Matteo Califano de Voix Machine
et Léa Longeau de Didatica.
Émission produite par le collectif Voix Machine avec le soutien du contrat de ville d'Est Ensemble et de la cave de Seine-Saint-Denis.
Une playlist a été constituée à partir des choix musicaux des 17 acteurs rencontrés. Vous la retrouverez dans les différents épisodes.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien voulu partager leur point de vue.
Merci pour votre confiance et à bientôt pour un prochain épisode.
Alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie.